Alors, début juin, notre frère et pasteur Jean nous a parlé de Jésus-Christ à travers plusieurs passages qu'il avait repris de l'Épître aux Hébreux. Mais à cette occasion, il y a un chapitre en particulier sur lequel il ne s'est pas trop arrêté, en tout cas où il n'est passé que rapidement, en l'occurrence le chapitre 11. Notamment, il l'avait dit, ce chapitre est assez long par lui-même. Mais si je peux me permettre de dire cela, c'est que ça tombait bien. Parce que déjà à ce moment-là, le Seigneur m'avait mis à cœur de, un moment, partager avec vous, de relire ensemble justement ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Les choses ont faites, je devais le faire normalement même la semaine suivante de Jean, bon les choses ont faites que ça ne s'est pas fait, merci encore à mon frère Étienne à ce moment-là de m'avoir remplacé au mois de juin. Mais c'est de ce fait ce matin que je voudrais le reprendre avec vous, reprendre ce texte, le reparcourir, ce texte qui présente une série remarquable d'exemples de, on pourrait dire, de témoins de la foi, certains disent de héros de la foi, et qui nous replonge dans quelques-uns des plus grands épisodes de l'Ancien Testament. Alors c'est non pas pour mettre en avant ces hommes, ces femmes, mais c'est bien pour mettre en avant justement la foi en Dieu. Et c'est ce terme que peut-être vous avez repéré dans tous les chants aussi qu'on a pris, la foi. Une foi qui s'est manifestée sous différentes facettes justement dans leur vie. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, à prendre justement ce chapitre 11, donc aux Épîtres et Hébreux, pour qu'on puisse le lire ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Donc voilà, je vous invite à ce qu'on le parcourt aujourd'hui, ce texte, qu'on revienne sur chacun justement de ces moments qui nous sont racontés. Peut-être parfois je passerai plus vite sur certains, sinon ça sera vraiment trop long. Mais on va commencer par les 3 premiers versets, déjà. Donc ce texte qui débute avec 3 versets importants qui sont, on pourrait dire en fait, une définition de la foi. Pour le monde, la foi est souvent considérée comme une préférence religieuse, une croyance qui n'est pas en fait vraiment ancrée dans un fait, dans une vérité. La foi serait donc un sentiment purement subjectif. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà ce que nous dit le verset 1. Dans d'autres traductions de la parole de Dieu, nous pouvons lire « La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » C'est la traduction d'Arby, ou encore dans la traduction Semeur. « La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. » Assurance, réalité, démonstration, conviction, attestation des choses qu'on espère qu'on ne voit pas. Ce verset présente la foi comme, en réalité, la faculté de percevoir ce qui est vrai, en parlant encore une fois pourtant de choses espérées ou invisibles. Et quelles réalités peuvent concerner quelque chose que l'on ne voit pas ? Mais c'est des réalités spirituelles. La foi concerne des réalités spirituelles que nous ne voyons pas, des choses telles que Dieu, lui, les voit, alors qu'elles nous sont encore voilées peut-être aujourd'hui. La foi a trait au futur. C'est ce que Paul souligne d'ailleurs en Romains chapitre 8, versets 24 à 25. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà ce qu'est aussi la foi, une attente avec espérance. La foi biblique n'est pas une puissance qui nous permet de déclarer ce que nos cœurs désirent ici sur cette terre, d'espérer le plus fort possible, on pourrait dire en croisant les doigts peut-être, voilà, que quelque chose ait lieu, en se disant que voilà, si on a assez de foi, ça va arriver, sans baser cette foi sur quelque chose de concret. Non, la foi, c'est la confiance humble et ferme dans ce que Dieu a promis d'accomplir. La foi, c'est l'attitude que nous adoptons devant les circonstances dans notre vie. Et par la foi, nous vivons comme si les choses étaient autres que ce qu'elles semblent, à cause de ce que Dieu, justement, encore une fois, a déclaré et promis. Paul écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » La deuxième épître aux Corinthiens. Nous ne vivons pas comme si Dieu existait théoriquement, mais nous vivons selon le fait que Dieu existe réellement. Par la foi, nous nous approprions cette réalité. Dieu existe et nous sommes sous son regard. Le point de départ de la foi consiste en croire en la personne de Dieu. Il est qui il dit être. Mais le point final consiste à croire à ses promesses. Il fera ce qu'il dit. Parce que nous croyons que Dieu accomplit ses promesses, sans pour autant les voir se concrétiser, c'est alors que nous démontrons la réalité de notre foi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, on peut lire aussi « Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru ». Verset 2 nous dit ensuite « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable ». Si je reprends encore une autre traduction, la Semeur, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. La foi de ces hommes, de ces femmes, de l'Écriture leur valut le témoignage favorable de Dieu. Ce ne fut pas leur don, leur performance, leur beauté, leur force, leur popularité, ces choses qui attirent les faveurs du monde. Ce fut leur foi, une foi fondée sur la parole de Dieu. Il y a deux regards différents, celui du monde donc et celui de Dieu. Et si vous y réfléchissez d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu un monument élevé ici, sur la terre, dans les villes, à la gloire d'Abraham, de Noé? Pour ma part, non. Ces hommes et ces femmes que nous allons étudier justement en Hébreux 11 sont passés inaperçus, on pourrait dire, aux yeux du monde, ne figurent pas vraiment dans les, lieux, dans les livres d'histoire ou comme des contes, des fables. Le monde admire la puissance, la richesse, la gloire terrestre, la célébrité. Donc on ne trouve aucun monument élevé à la gloire d'Abraham ou des autres parce que ce qu'ils possédaient ne présente aucun intérêt pour ce monde. Mais leur foi en Dieu, bien que dédaignée par les hommes, fit d'eux de grands personnages aux yeux du Seigneur et leur valut justement ses faveurs et son approbation. Approbation qui est celle que nous-mêmes aujourd'hui devrions encore rechercher en premier lieu dans nos vies. La faveur de Dieu. Voilà ce que je veux aussi vous inviter déjà pour commencer à rechercher chaque jour de votre vie. Au cours de cette étude, quand je cherchais dans différents commentaires, je suis tombé sur un commentaire dont, au final, je n'ai pas l'auteur. Parfois, il y a des commentaires qui sont intégrés dans d'autres commentaires et on ne sait plus. Mais ce commentaire disait ceci, et je trouvais qu'il était assez juste. La foi rencontre toujours une montagne de preuves qui semble contredire la parole de Dieu, une montagne de contradictions apparentes dans le domaine des faits tangibles, et c'est ou bien la foi, ou bien la montagne qui doit céder. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Je pense que c'est un peu ce que nous dit aussi le verset 3, justement. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que son convoi n'a pas été fait de choses visibles. L'origine du monde est un vaste sujet. Une origine surnaturelle que personne n'a jamais su expliquer scientifiquement, ou en tout cas on a beaucoup de théories à ce sujet. Et malgré justement toutes ces théories, toutes ces personnes qui se penchent dessus, aujourd'hui la conclusion est toujours celle-ci, personne n'arrive à se mettre d'accord, personne n'arrive à savoir qui a la vérité. Parce que la création ne peut pas s'expliquer par des preuves justement qui frappent le regard. Mais être chrétien, c'est alors ceci. C'est accepter que nous ne puissions justement pas tout comprendre et reconnaître ce que la parole de Dieu nous dit comme vérité. Croire que la Bible est parole de Dieu. Comprendre et connaître par la foi. Notre foi n'est pas une confiance aveugle, un vœu pieux, une manifestation juste d'une attitude positive. Non, c'est une foi qui est basée en Dieu. C'est croire la parole de Dieu parce qu'elle est la parole de Dieu qui a créé justement toute chose et qui, selon Hébreux 1, au chapitre 1, verset 3, nous dit cette parole qui soutient toute chose par sa parole puissante. Une parole puissante donc qui dit, et la chose arrive, et qui ordonne, et elle existe. Ça se trouve dans le livre des Psaumes. Et la suite d'Hébreux 11 nous présente donc justement ces illustrations de la foi, de cette foi. Des hommes et des femmes qui nous donnent encore aujourd'hui l'exemple d'une foi authentique. Une confiance qui se traduit en action, malgré tous les témoignages, en fait contraires, qu'ils ont pu rencontrer dans le monde. Une foi qui s'est nourrie de la parole de Dieu, qui s'est développée au contact de cette parole, de la parole de notre Seigneur, qui a porté les fruits de cette parole, qui est vivante et efficace. Alors on va les reprendre un à un, en commençant par la foi d'Abel, qui nous est présentée au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors ce verset fait référence à l'histoire qui nous est relatée dans Genèse, au chapitre 4, versets 3 à 5, que je vais lire, mais je ne vais pas toujours lire à chaque fois les références de l'Ancien Testament. Donc je vous inviterai, n'hésitez pas en tout cas à les relire par vous-même plus tard. Mais donc là, dans Genèse, au chapitre 4, versets 3 et 5, on peut lire « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Deux offrandes reçues de deux façons par Dieu. Le texte de Genèse ne nous dit pas forcément de manière très claire pourquoi le sacrifice qu'offrit Abel fut accepté au contraire de celui de Caïn. Parce que Caïn fit aussi une offrande à l'Éternel, ce qui en soi semble bon. Mais il y avait une différence. Et Hébreux 11 nous dit justement laquelle. La différence entre Abel et Caïn était justement la foi. La foi de l'un des frères et le manque de foi de l'autre. Une foi fondée sur la parole de Dieu pour Abel, qui a suivi justement ce que Dieu avait dit. Pour le comprendre, il faut revenir au sens justement de ces offrandes offertes à Dieu dans l'Ancien Testament. Caïn fit une offrande des fruits de la terre, c'est-à-dire une offrande d'action de grâce, voyant Dieu comme celui qui pourvoyait, qui pourvoit. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Une offrande qui impliquait du sang versé. Une offrande faite dans une attitude de soumission. Une offrande d'expiation. Un sacrifice de substitution qui signifiait qu'il voyait Dieu comme son rédempteur. Par la foi, le sacrifice d'Abel fut jugé meilleur que celui de Caïn, parce que par la foi, il offrit le sacrifice que Dieu avait indiqué comme moyen par lequel il rencontrerait et accueillerait justement l'humanité pécheresse. Qu'est-ce que ça signifie encore pour nous aujourd'hui, cet exemple ? D'abord que l'homme pécheur est justifié, autrement dit accepté par Dieu, uniquement par la foi dans l'efficacité du sang du sacrifice fourni par Dieu. Le sang qui n'est plus celui d'un animal, mais celui de Christ, qui ouvre le ciel pour ceux qui placent leur confiance en lui. Hébreux chapitre 9 nous déclare « Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes ». Nous ne pouvons pas venir à Dieu en empruntant n'importe quelle voie, celle qui nous plaît. Et c'est précisément ce que fit Caïn, il voulait décider lui-même en quelque sorte les conditions dans lesquelles il s'approcherait de Dieu. Mais il n'y a que deux types d'offrandes, deux façons de venir à Dieu. L'une se centre sur notre labeur, nos mérites, notre justice, et on voit comment Dieu l'accepte avec l'exemple de Caïn. Et l'autre passe par Jésus-Christ, crucifié à notre place pour expier nos péchés. Tant que nous ne venons pas à Dieu en confessant notre péché, notre besoin de sa grâce, et que nous n'acceptons pas l'envoi du Fils de Dieu pour mourir à notre place, qui est venu mourir à notre place, alors nous rejetons le seul chemin que Dieu a prévu. Et nous serons alors rejetés aussi, condamnés pour nos péchés, et nous subirons les tourments éternels de l'enfer. En dehors du sang de Christ, tous les autres moyens sont rejetés, comme encore une fois l'offrande de Caïn. Car vous ne nous approchez pas alors par la foi, de Dieu par la foi, conformément à ses exigences. Et Pierre nous dit aussi dans les Actes, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce que Jésus a lui-même dit d'ailleurs aussi, en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » On va continuer pour arriver à la foi d'Enoch, aux deux versets suivants. Je vais quand même encore lire dans Genèse au chapitre 5 aussi pour se rappeler qui est Enoch, parce que parfois peut-être on connaît moins Enoch, ou en tout cas on se rappelle moins de lui. Enoch, âgé de 65 ans, donc ça se trouve dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Donc Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est assez court, comme passage pour retracer une vie. Pourtant, Pourtant, l'exemple qui nous est donné par Enoch, c'est son attitude, sa manière de vivre. L'attitude d'un homme de foi que nous devons reproduire, que nous n'hésitons pas à reproduire, et qui, je pense, décrit très bien aussi ce qui est écrit dans le livre de Michée, du prophète Michée, chapitre 6, verset 8. Ce verset nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Mettre en pratique, marcher humblement avec Dieu, marcher avec foi, fidèlement chaque jour. Vivre avec Dieu, le chercher en toutes choses. Ce qui nous rendra agréable à Dieu, tout comme Enoch le fut, et nous fera bénéficier de cette rémunération promise qui n'est autre que la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je pense aussi on peut retirer de ce verset à propos d'Enoch. Le texte continue avec Noé qui est bien plus connu, dont l'histoire se trouve encore dans la Genèse. Là, on est vraiment... l'Hébreu 11 retrace un peu l'Ancien Testament, mais de manière en suivant la chronologie qui est présentée dans l'Ancien Testament et l'histoire. Donc là, je ne vais pas le lire. Je vous laisserai lire Genèse chapitre 6. Mais Hébreu 11 nous présente une foi, donc une foi de Noé, qui est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Une foi qui a pris encore une fois la parole de Dieu comme vérité, comme fondement. Sans autre preuve que la parole divine, Noé a cru qu'un déluge surviendrait. Une foi avertie, agissante, triomphante, malgré la souffrance que Noé a vécue en étant mis à l'écart, en subissant l'opposition, l'incrédulité qui était face à lui, il fut rejeté car il était différent. Mais une foi qui lui a permis de persévérer, en ayant le regard selon Dieu, selon la crainte de Dieu, justement, et sans se laisser influencer par les discours de tout ce qui était autour de lui, tout ce qui était dit. Et une foi qui condamna le monde, c'est écrit aussi dans le texte. Car, malgré la folie apparente justement de l'ordre qui lui fut donné, Noé a obéi. Et son obéissance a fait ressortir la désobéissance du monde. Et une foi par laquelle Noé devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Oui, prenons exemple sur Noé. Aujourd'hui encore, le monde ne comprendra pas, ne comprend pas le message de la croix. Ce message qui est une folie pour ceux qui périssent, mais qui, pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Ça se trouve dans le premier épître aux Corinthiens. Alors ne nous y trompons pas, ne nous laissons pas entraîner par tout ce qui peut être autour de nous, par tout ce qu'on peut nous dire. Restons fidèles à Christ, comme Noé, et restez fidèles à Dieu. Restons fidèles à Christ qui est le seul en qui nous pouvons être sauvés. Tout comme l'arche fut le seul salut pour Noé face au déluge. Je vais reprendre le verset 1 qui nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pourquoi je reprends aussi ce verset ? Parce que les suivants, versets 8 à 19, c'est quasiment 10 versets consacrés à la foi d'Abraham. Et je pense que l'auteur de cet épître des Hébreux veut nous montrer aussi comment justement la vie d'Abraham a mis en pratique ce premier verset. Abraham qui est un exemple de foi, lui qui vécut en pèlerin sur la terre. Lui dont la foi le fit obéir, partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage sans savoir où il allait. Et qui l'amena aussi à s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Sa foi lui donnait la preuve de ce qui lui était promis, mais qu'il ne voyait pas encore. Et Dieu appela et Abraham a obéi. Obéi car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, la cité promise par Dieu. Et c'était un appel total. Parti avec femme, enfant, avec ce qu'il avait. Un appel qui a impliqué de donner sa vie entière à Dieu. Un appel qui peut aussi nous rappeler d'ailleurs celui des disciples, quand Jésus les a appelés. Jésus leur a dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes » et aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Pour Matthieu, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu et lui dit « Suis-moi » et cet homme se leva et le suivit. Eh bien Abraham a fait pareil, il s'est levé, il a suivi l'ordre du Seigneur. Et la foi d'Abraham est un exemple pour nous de ce que doit être la foi, de ce qu'est une vraie foi, une foi qui n'est pas juste théorique. Parce qu'une foi uniquement théorique, justement, est en réalité une foi morte. Alors, un pasteur chrétien américain qui s'appelle Hayden Wilson Tozer, qui est vécu au début des années 1900, disait ceci, « Si ce que nous croyons ne change rien dans notre manière de vivre, notre foi ne fait aucune différence pour Dieu non plus. » Une foi véritable, comme celle d'Abraham, amène à poser des gestes concrets, amène à une dynamique d'action. Et on entend parfois dans le monde d'ailleurs une phrase « Je suis croyant mais pas pratiquant ». Eh bien, je vais vous dire, frères et sœurs, c'est pas possible. Une foi qui n'amène pas une obéissance envers Dieu n'est pas une vraie foi et ne fait donc pas de nous un croyant. Toute notre vie est changée quand nous venons à Dieu. Nos relations, notre famille, notre travail, l'usage de notre temps, tous ces changements sont en réalité les preuves de notre conversion. Ça ne veut pas dire que tout va être changé en un instant. Notre cœur est changé en un instant par l'œuvre du Seigneur qui nous purifie. Après, nous marchons sur ce chemin de la sanctification. Mais ces changements doivent se voir. Et c'est une question qu'on peut se poser ce matin justement. Est-ce que ma foi est théorique? Est-ce que ma foi m'amène à quitter ma patrie terrestre pour me diriger vers la patrie céleste, comme l'a fait Abraham? Ce monde n'est pas notre maison, notre foyer. Et on doit comprendre que nous aussi, encore aujourd'hui, nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Alors nous devons veiller à ce que notre trésor ne soit pas dans les choses du monde, ce qui nous rendrait encore plus dur justement d'être pèlerins et de vivre selon la volonté de Dieu. Car la parole de Dieu nous le dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur d'Abraham était tourné vers Dieu, était consacré à Dieu, et sa foi fut récompensée par un double accomplissement des promesses de Dieu. Un accomplissement terrestre avec la naissance d'un fils, Isaac, avec la terre promise, mais aussi une réalité céleste, une postérité spirituelle, tous enfants de Dieu en Jésus-Christ. Alors tout comme Abraham, frères et sœurs, désirons la patrie céleste, la cité que Dieu a préparée pour ceux qui le cherchent, ceux qui cherchent cette cité. Que notre foi en définitive soit aussi cette prière. Que ton règne vienne et qu'elle nous fasse vivre justement selon la volonté de Dieu en attendant ce jour qui, nous le savons, nous le croyons, arrive bientôt. Avec déjà tout ce qu'on vient de partager sur la foi d'Abraham, ça peut déjà nous inspirer, mais Dieu ne s'arrêta pas là. Il mit encore à l'épreuve cette foi. Lorsqu'il demanda à Abraham d'offrir ce fils unique, Isaac, ce fils qu'il avait tant attendu et qui en plus était celui par qui la promesse de Dieu devait s'accomplir. Mais que nous dit le verset 19 ? Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Par cette épreuve, Dieu ne voulait pas être juste cruel, même cruel tout court. Non, Dieu voulait enseigner à Abraham comment l'évangile allait s'accomplir. Par Christ, qui est notre substitution à nous pécheurs. En étant prêt à tout donner à Dieu, jusqu'à son fils, Abraham a reçu bien plus qu'il ne pouvait imaginer. Et cette récompense à notre foi n'est pas toujours immédiate, n'a pas toujours une forme matérielle. Mais suivons l'exemple d'Abraham, qui nous encourage encore aujourd'hui à nous fier davantage sur Dieu plutôt que sur notre propre sagesse. Et alors, je peux vous l'assurer ce matin, les meilleures et les plus grandes récompenses vous attendront dans l'éternité. Avant de poursuivre sur la suite, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur la foi de Sarah qui nous est citée aussi au verset 11 et 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La foi de Sarah nous est présentée ici. Pourtant, si on lit Genèse chapitre 18, verset 12, on voit que Sarah rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » À ce moment-là, on voit plutôt son incrédulité plutôt que sa foi. Mais que se passa-t-il alors ? Pourquoi ? Comment cette incrédulité est-elle devenue ou est-elle passée à la foi ? Ben simplement parce que Sarah a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Quand Sarah comprit que cette promesse était parole de Dieu, parole puissante qui a renversé, c'est cette parole puissante qui a renversé l'incrédulité et qui a engendré la foi. Une foi d'obéissance, de confiance en Dieu malgré plusieurs situations qui semblaient impossibles. La stérilité, le grand âge. Et cette illustration de la foi à travers Sarah nous montre qu'il y a parfois des obstacles qui nous semblent insurmontables devant la foi. Et si c'est le cas, frères et sœurs, rappelez-vous ceci, aucun obstacle ne peut être plus fort que la foi, car la foi nous vient de la parole vivante de Dieu. Et si nous doutons, malgré tout, si nous chutons, comme Sarah d'ailleurs a ri, ne pensons pas que ces imperfections de notre foi nous attireront le jugement de Dieu. Si nous lui restons fidèles malgré tout, si nous persévérons, Dieu ne nous rejettera pas alors à cause de la faiblesse de notre foi, mais au contraire, il viendra à notre secours. Il fortifiera notre foi. Ce qu'il fit aussi avec Pierre. On pourrait dire, quand Pierre a été mis à l'épreuve, qu'il a renié trois fois notre Seigneur, eh bien, cette épreuve lui a été donnée pour l'amener justement à se repentir, à revenir encore plus vers le Seigneur. Et cette épreuve rendit cette foi justement éprouvée encore plus pure et plus ferme. La foi d'Isaac, Jacob et Joseph nous est ensuite présentée dans les versets 20 à 22. Je ne vais pas beaucoup m'arrêter dessus ce matin, mais j'aimerais partager avec vous quand même ceci sur cet exemple de foi. Tout comme ces trois patriarches l'ont fait en bénissant leurs enfants, n'oublions pas et ne négligeons pas nos enfants. Et rappelons-nous ce point important qui est que la foi se transmet d'une génération à une autre. Nous en arrivons à un exemple de foi à travers la vie de Moïse. Moïse est, je pense, un des personnages les plus connus de la Bible, en tout cas de l'Ancien Testament. Il a délivré le peuple de Dieu en le faisant sortir d'Égypte. Il nous a donné les 10 commandements. Mais Dieu lui a donné, en tout cas à travers lui, les 10 commandements. Et rien d'étonnant donc à ce qu'il fasse partie des héros de la foi qui sont présents dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Pour autant, le premier exemple de foi qui nous est manifesté au verset 23 n'est pas celui de Moïse, mais celui de ses parents, qui le cachèrent et ne craignirent pas l'ordre du roi qui était que tout garçon hébreu qui viendrait à naître devait être tué. Cet acte de foi des parents pourrait ressembler aussi à une désobéissance envers l'autorité de l'époque, et c'était, on pourrait dire, le cas. Et la Bible nous dit, par contre, dans Romains au chapitre 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Alors comment concilier cette désobéissance avec cet exemple de foi qui nous est donné ? Eh bien, désobéir aux autorités, car celles-ci s'opposaient à Dieu lui-même. Cette soumission demandée par Dieu n'est applicable que si et seulement si elle n'implique pas de désobéir à Dieu lui-même. Et les parents de Moïse décidèrent de placer leur confiance en Dieu. Et ils démontrèrent une foi, leur foi en Dieu en agissant ainsi. Et qu'est-ce que cela peut nous dire aussi encore pour nous aujourd'hui ? C'est que ça peut nous rappeler que, même si nous savons que la foi est quelque chose de personnel, et que nous ne pouvons pas, par exemple, en tant que parents, sauver nos enfants à l'aide de notre propre foi. Eh bien, néanmoins, nous pouvons croire ceci. Notre foi peut, et même est, est une bénédiction pour nos enfants. Tout comme la foi de ses parents permit à Moïse de rester en vie et d'être ce qui fut en fait la première étape dans ce plan que Dieu avait prévu pour lui. Cette bénédiction, justement, qu'il avait pour lui. Le texte poursuit avec ce choix de Moïse qui, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, qui préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Par la foi, Moïse refusa les richesses du monde. La foi lui donna le courage et la force de préférer même la souffrance qui l'attendait avec ce choix plutôt que ses réjouissances, c'est en tout cas qui lui était proposé. Les avantages de la fortune, la popularité, le succès, tout cela est tentant et nous nous laissons parfois facilement tromper par ces choses, ce qu'elles nous font miroiter, parce qu'on devient alors aveugle aux avantages à long terme du royaume de Dieu. Et Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et oui, nous avons besoin de ce renouvellement de notre intelligence, que notre foi grandisse, soit éclairée, qu'elle nous donne ce regard justement vers la rémunération promise, les yeux fixés sur les choses invisibles vers Christ, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, que tous les trésors du monde. Romains chapitre 8, versets 17 à 18, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ce modèle de foi, cet exemple-là, où Moïse a choisi Dieu plutôt que les richesses, est aussi, entre autres, un encouragement, encore une fois, pour nous parents. Et même si nous ne sommes pas parents, pour en tout cas le modèle que nous pouvons donner aux enfants. Parce qu'en tant que parents, nous avons souvent tendance à nous dire que pour protéger nos enfants, il nous faut les préserver de toutes les influences du monde. Et bien sûr, c'est important de leur enseigner à savoir discerner le bien du mal. Néanmoins, si vous pensez qu'il faut pour y arriver les isoler du monde, je vous le dis ce matin, ceci n'est pas la solution. Attention, je ne dis pas qu'il nous faut tout leur laisser faire, je ne dis pas qu'il ne faut jamais les isoler de certaines influences, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai bien parlé que ce modèle de foi est un encouragement pour nous. Mais si on regarde à Moïse, il a grandi dans la cour du Pharaon, entouré de toutes ses influences du monde. Pourtant, il n'a pas choisi cette voie. Nous devons avant tout faire confiance à Dieu. La foi de ses parents, la foi des Hébreux que Moïse pouvait observer, ont été plus fortes que les influences ou richesses proposées. Ces exemples de foi furent la semence que Dieu utilisa pour faire croître la foi de Moïse elle-même. Alors la meilleure façon de préserver nos enfants de l'influence du monde, c'est en vivant nous-mêmes par la foi, en étant nous-mêmes cet exemple de foi qu'ils ont besoin de voir dans notre vie pour leur vie ensuite. Et c'est ceci aussi que je vais vous inviter encore à faire ce matin à la lecture justement de ces versets qu'on vient de prendre. Concernant la foi de Moïse et du peuple, encore trois aspects à retenir. Le courage dans la foi qui lui permit de quitter l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi et de se montrer ferme. Un courage non pas puisé en lui-même est possible parce qu'il voyait celui qui est invisible. Et la foi est le seul moyen qui nous permet de voir au-delà de nos problèmes, des difficultés et donc d'y faire face. Un second aspect qui est le salut de la foi. Verset 28, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Moïse et le peuple ont agi par la foi. Ils n'avaient pas encore vu l'effet qu'aurait ce sang sur les linteaux de leurs portes, mais ils ont agi. Sauvés par le sang, le salut de la foi, par le sang de Christ, Christ aujourd'hui étant notre Pâque. Et le troisième aspect, c'est le double effet de la foi. On nous parle le verset 29, mais aussi le verset 7 qu'on a lu tout à l'heure. Une foi qui sauve lorsque le peuple a traversé à sec la mer Rouge, mais aussi une foi qui condamne lorsque les Égyptiens furent engloutis. Et le verset 7 disait « C'est par la foi que Noé condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé sauvé, héritier de la justice, et de l'autre, le monde condamné. De Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 15 et 16, nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. » Jéricho et la foi de Rahab. C'est le passage qui se trouve dans le livre de Josué. Ces deux versets mettent en avant, les versets 30 et 31 là, du chapitre 11 aux Hébreux, mettent en avant l'incrédulité de Jéricho d'un côté et la foi de Rahab de l'autre. Rahab vivant dans cette ville, vivant dans le péché, et devant donc normalement subir le même châtiment qui attendait Jéricho et tous ses habitants. Mais Rahab qui fut sauvée par sa profession de foi, par son témoignage, en demandant miséricorde, en reconnaissant que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et Dieu lui fit miséricorde et l'épargna. La foi de Rahab nous montre en fait ceci. Dieu ne s'arrête pas à notre passé ou à la désapprobation des autres. Si on prend la première épître aux Corinthiens, on voit clairement que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il est cité voilà, toutes sortes d'injustes, de pécheurs. Et ce passage se termine également par ceci. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cette fin du verset, bien sûr, pour ceux qui viennent à Christ. Et Rahab, la prostituée, n'est autre que la figure de la puissance transformatrice de l'Évangile. Par la foi en Jésus-Christ. Les pécheurs, nous tous, nous l'étions aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas encore venu à Christ ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous rejetez-vous les envoyés de Dieu ou allez-vous les accueillir? Ce que Rahab a fait. Et Luc, dans l'évangile de Luc, il est écrit « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Alors ne soyez pas de ceux qui rejettent Dieu, mais accueillez-le dans votre vie, afin qu'il fasse croître en vous cette foi qui vous amènera à la repentance, au salut, à Christ. Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel, des prophètes, versets 32 à 38, en cite plusieurs autres héros de la foi qui nous sont donnés en exemple, non pour leur conduite, et on peut d'ailleurs dire que tous ces hommes n'ont pas été toujours des modèles d'hommes vertueux pendant leur vie terrestre, mais par la foi, Dieu changea leur cœur et par la foi, ils reçurent la justice de Dieu. Ces versets 32 à 38 nous sont donnés pour nous montrer que cette foi donnée par Dieu ne rayonne pas seulement de ceux qui sont considérés comme des vainqueurs, ce qui est un peu l'objet des versets 32 à 35, mais également de ceux qui souffrent, ce qui est la suite jusqu'au verset 38. Et que nous fassions partie de ceux qui sont appelés à conquérir des royaumes, à exercer la justice, échapper aux tranchants de l'épée, à ramener des morts à la vie, de ceux qui sont torturés, qui sont la cible des railleries, des coups, qui sont emprisonnés, privés de tout, n'a que peu d'importance en soi. La grande question est de savoir si oui ou non nous prenons Dieu au mot. Et ce qui compte est notre foi en Dieu pendant tous ces événements que nous rencontrerons. Dieu n'a jamais promis qu'avoir une foi ferme en lui nous garantirait une vie heureuse et sans souci. Au contraire, cela nous assure presque toujours d'ailleurs un mauvais traitement de la part du monde, parce que notre foi et les valeurs de ce monde vont entrer en collision. Mais si nous nous attendons à la douleur et à la souffrance, alors nous ne serons pas surpris lorsqu'elles frapperont. Car oui, Dieu peut vous placer dans l'une des deux catégories de héros de la foi, ceux qui triomphèrent, du côté de ceux qui triomphèrent ou du côté de ceux qui ont souffert. Mais dans les deux cas, sachez que Dieu restera fidèle à ses promesses. Et sachez que vous êtes déjà vainqueur. Vainqueur par la foi qui permet de triompher en toutes circonstances grâce au sang de Jésus-Christ. Parce que oui, la victoire nous appartient, car Christ est venu et Christ a déjà vaincu. Alors j'en arrive à la fin du chapitre avec les versets 39 et 40. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Tout cela, plus loin le mot « nous ». Un parallèle entre cette nuée de témoins de l'ancienne alliance et nous. Une continuité entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avant et après l'arrivée de la perfection, qui n'est autre que Jésus-Christ, notre Sauveur. Premier épître de Pierre nous dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Ces hommes et ces femmes de foi sont morts avant la venue du Christ. Et comme le texte nous le dit, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, ils n'ont pas reçu la pleine récompense divine car leur espérance était différente de la nôtre. Eux espéraient que la promesse s'accomplirait. Notre espérance porte dans le fait qu'elle soit déjà accomplie. Nous ne sommes plus dans l'attente de l'accomplissement de la promesse, mais dans la contemplation de cet accomplissement. Nous vivons déjà dans la gloire de l'Évangile en Christ. Et oui, tout est déjà accompli par Christ. Mais même si cette espérance est différente, nous connaîtrons la gloire de Dieu ensemble, les hommes de foi de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Notre union au corps de Christ nous associe non seulement aux vivants, mais aussi à ceux qui ont vécu et qui ont cru. Alors j'en arrive à la conclusion, désolé pour le temps, mais que j'aimerais encore partager avec vous, frères et sœurs, à l'aide de ce verset qui se trouve dans Hébreux aussi, mais au chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alors oui, en tant que chrétien, n'hésitons pas à chercher à ressembler à ces frères et sœurs fidèles en Dieu. Ces hommes et ces femmes que le Seigneur a guidés, a utilisés à son service pour nous exhorter, nous enseigner, nous encourager. Apprenons de leur exemple. Soyons semblables à eux en tout ce qui était bon dans leurs enseignements fidèles de la parole, dans leur obéissance à Dieu, dans leur confiance dans les promesses de Dieu, en nous rappelant ces quelques points. D'abord que ces héros de la foi n'étaient pas des super-héros avec des pouvoirs magiques, avec une force surhumaine. C'était des hommes et des femmes comme nous, tout comme vous et moi. Ce qui les rendait différents, c'était leur foi. Une foi qu'ils recherchaient, non pas en eux, mais auprès de Dieu. Et que Dieu leur donnait en retour. Augmente-nous la foi, disaient les disciples. Alors adoptons encore ce matin la prière des disciples. Seigneur, augmente ma foi. Et comprenons que rien n'a plus de valeur pour nous, que rien n'est plus bénéfique, que rien n'est plus désirable de la part de Dieu que la foi qui nous sauve par notre union avec Christ. Et soyez sûrs d'une chose, Dieu ne refusera jamais la foi à celui qui la lui demande. Demandez et l'on vous donnera, cherchez vous trouverez, et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Cette parole est une parole de Jésus. Rappelez-vous aussi que la foi n'est pas puissante en elle-même, et que la force et la puissance se situent dans ce en quoi nous plaçons notre foi. Une foi forte placée au mauvais endroit ne sert à rien, et la foi véritable est celle qui est placée au bon endroit sur la parole de Dieu et sur les promesses de Dieu. Rappelons-nous aussi que lorsque tout aura disparu, seule notre foi comptera. Et c'est au moyen de la foi seule que nous sommes sauvés. Par la foi, nous gagnons Christ et sa croix, le pardon du péché et la vie éternelle. Et sans la foi, nous sommes condamnés à périr avec toutes les choses futiles de ce monde. Et par-dessus tout, et avant même de chercher à ressembler à tous ces héros, cherchez à ressembler au héros suprême de la foi, Jésus-Christ. Le seul héros sans défaut, le seul héros substitut pour nos péchés, le seul héros qui est mort et ressuscité pour nous, pour notre salut, le seul à qui nous devons réellement chercher donc à ressembler. Je vais terminer quand même encore avec un... J'avais dit que c'était le dernier verset, mais non, encore un dernier, Deutéronome, chapitre 13, verset 5, qui est un verset que un frère Gédéon nous avait lu un matin sur une, ou je ne sais plus, à une mensuelle, ou une réunion en tout cas que nous avions pu avoir ensemble, et qui dit ceci. C'est l'Éternel, donc Deutéronome, chapitre 13, verset 5, c'est l'Éternel, votre Dieu, que vous suivrez, et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez, et c'est à lui que vous obéirez, c'est lui que vous servirez, et c'est à lui que vous vous attacherez. Suivre, craindre, respecter, obéir, servir et s'attacher. Voici les verbes liés à la foi, et que je veux encore donc vous inviter à retenir. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.